Bon, alors attention, on est prêt, moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez écouté le premier Clap Cinéma avec Roland Massabuo. Bonjour Roland.
Et bonjour.
Toujours fidèle au poste, oui, pour parler d'opéra. Donc, nous avions parlé dans un premier Clap Cinéma des mois d'octobre à décembre 2025 pour les quatre transmissions des opéras du Metropolitan de New York au Kinépolis, donc nous, Nîmes, c'est-à-dire La Somnambule, La Bohème, Arabella et Andrea Chénier. Alors, en 2026, il y a quatre présentations, Les Puritains, Tristan et Isolde, Eugène Onéguin et Le Dernier Rêve de Frida et Diego. Donc, une programmation qui vous plaît.
Ah ben, ça me ravit. Alors, c'est d'un électisme complètement... Enfin, c'est une variété linguistique formidable,
ouais,
et culturelle formidable, parce qu'il y a un ouvrage en italien, du répertoire italien, un ouvrage du répertoire germanique, un ouvrage russe et le dernier ouvrage en espagnol.
Ah donc,
formidable.
Est-ce que vous avez fait des progrès en langue en étant un passionné d'opéra ?
Peut-être en italien, oui, inévitablement. Après, je ne vous cache pas que le tchèque m'est un peu étranger.
C'est des sonorités tout de même très, ouais, particulières. Ouais. Alors, quand vous allez à l'opéra, Roland, parce que vous êtes un fan d'opéra, c'est toujours dans la langue originale.
Ah oui, heureusement.
Heureusement.
Ah oui, oui, bien sûr.
Donc, il faut connaître le livret pour arriver à suivre un peu l'intrigue.
C'est conseillé.
C'est conseillé.
Enfin, à mon sens, il est même conseillé la veille ou les jours précédents la représentation, qui peut être la plupart du temps une découverte. De
lire.
De lire, d'écouter, avec maintenant les moyens de YouTube et tout ça, on peut
oui,
écouter.
De ne pas venir sans aucune préparation.
Non, parce qu'on peut trouver des fois des longueurs.
Oui.
Ça peut être le cas.
Même c'est si, répétitif.
Même
souvent,
si je dis que ça m'aurait vu, c'est peut-être le cas de Tristan et Isolde, parce que moi, les 5 heures, pour moi, ça dure 10 minutes, tellement je suis dans le bain. Mais c'est vrai que dans le répertoire italien, il y a souvent, comme vous le dites, des répétitions.
Ah oui, si on n'a pas compris, et je t'aime, et je t'aime.
Oui, oui.
Et
ceci dit, dans la chanson française aussi, ça peut exister.
Oui. Donc, c'est vrai que l'intérêt des retransmissions au Kinépolis, c'est qu'il y a des sous-titres. Et ça aide tout de même, parce que parfois, il y a eu des petites pannes de sous-titres.
Et oui.
Et c'est vrai que malgré la préparation, on peut être un peu perdu.
Quand il y a des blancs, c'est un peu difficile.
C'est
je
un
reconnais,
peu difficile. Ouais. Mais la langue originelle, pour vous, c'est ça qu'il faut écouter.
Oui, alors ça, si vous voulez, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que lorsque je suis tombé dans le bain de l'opéra,
il y a très longtemps.
J'ai pris d'autres bains aussi, à part l'opéra quand même. Mais d'autres passions, disons. Il arrivait souvent, surtout sur les scènes de province, que tous les ouvrages soient en traduction française.
Mm-hmm.
Et je trouvais ça dommageable.
Ça perdait de,
ah oui,
de son
sûr.
Identité,
et
on son
arrive
authenticité.
Même à certaines, allez, on va le dire, à certaines aberrations où des scènes de faibles moyens financiers voulaient, si vous voulez, sortir un peu de l'ordinaire et inviter un artiste étranger à venir chanter un rôle. Et on a vu partout en province dans les années 70, un Rigoletto, par exemple, chanté par les chœurs en français, par les trois des quatre artistes principaux en français et par le baryton en italien.
Ah
ça
ouais.
gênait personne. Voilà.
Enfin, moi, souvent, parce qu'on a dit, on a parlé dans les précédentes émissions, ce sont des grands chanteurs et chanteuses qui manient tout de même les langues, même si parfois ils l'apprennent phonétiquement.
Oui.
Parfois, on a l'impression que c'est un peu du yaourt. Hein, c'est-à-dire que même le français,
sûr,
on a du mal
sûr.
À le reconnaître hein, parfois.
Oui, alors il y a quand même une progression, moi, que je trouve formidable, de la part des chanteurs américains.
Mm.
Je trouve que eux... Ouais. Franchement, font des efforts considérables pour aborder le répertoire français.
Mais vous le disiez aussi, ils ont tout un travail de répétition, etc.
C'est gigantesque. Surtout pour les œuvres qu'ils chantent pour la première fois.
Ouais.
C'est colossal.
Il faut apprendre, il faut répéter, et puis tout seul, avec les autres, oui, avec l'orchestre.
Et ne pas oublier aussi de jouer, parce que ce sont des acteurs.
Ce sont des acteurs, oui. Et avec la caméra, ils sont pris de très près.
Bien sûr, et puis il y a les accessoires qui peuvent peser, les maquillages qui ne plaisent pas,
les
robes qui pèsent trop lourd.
Oui, je me souviens, c'était dans le Weiner, une chanteuse de l'époque avait dit « Ah, je m'étais pris le pied dans la robe,
c'était... »
Et il faut continuer de chanter.
Oui.
Ou quand elles étaient suspendues, les Valkyries qui étaient
bien
suspendues
sûr.
Dans les airs.
Ou souvent chanter allongé ou couché. Enfin.
Ou couché, oui. Donc tout ça pour dire qu'on admire.
Hein, oui, même... c'est des athlètes de la voix,
ouais,
aussi.
On admire vraiment cette... Et vous y prenez toujours beaucoup de plaisir.
Bien sûr.
Il y a la voix, mais vous regardez
tout. Il y a tout le reste.
Il y a tout le reste. Et Tristan et Isolde, on va commencer par les puritains, mais Tristan et Isolde, vous ne pouvez pas vous en passer. Hein.
C'est un monument, ce n'est pas pareil. Là, on passe à autre chose.
Alors, on va commencer par celui du mois de janvier, les puritains.
Les puritains.
Alors,
c'est très, oui, le deuxième Bellini de la saison. Oui. D'ailleurs, c'est bien, avec le Sonnambou et les puritains. C'est effectivement, ça fait partie du catalogue de Bellini, qui n'est pas le plus connu du grand public. Mm-hmm. On pense plutôt généralement à Norma, bien sûr.
Ouais.
Puritains, qui est un ouvrage dans un contexte historique, bien sûr.
Cromwell,
oui. Oui, qui est incroyablement difficile à chanter pour la soprano. C'est très, très aigu et ça réclame beaucoup de souplesse et de haute virtuosité.
Là, c'est Lisette
Oropesa qui est extraordinaire.
Ouais.
Fille très...
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des chanteurs extraordinaires, non?
Il y a une nouvelle vague extraordinaire.
Ouais.
Moi, je trouve, franchement...
Oui, moi, ça fait une quinzaine d'années que je vois les retransmissions et la première génération, elle n'est plus là. Hein,
oui,
donc,
bien sûr. Ou dans des rôles un peu plus effacés.
Ouais.
Mais les grands rôles, maintenant, ce sont des gens qui ont, en grande majorité, moins de 40 ans.
Ouais. Et puis, d'origine de l'Europe...
Ah,
il y a tout.
Y compris Amérique centrale, portoricaine...
Oui. Une grande...
Oui. Et bien sûr, asiatique.
La concurrence est rude, hein.
La concurrence, oui, avec une école coréenne aussi qui est... Mmh. Et alors, il y a actuellement deux barytons mongols qui sont renversants.
Il doit y avoir tout de même des luttes de pouvoir par
comme
derrière,
partout.
Comme partout. Oui, on sent votre grande expérience et le recul de l'âge aussi.
C'est un peu ça.
Comme partout, là. Mais bon, je veux dire, il y a la compétence. Hein, et puis, il y a peut-être le petit plus qui est, je ne sais pas quoi, qui est le charisme, qui est... On parlait de Nadine Sierra, qui a quelque chose en plus.
Bien sûr.
Hein, apparente facilité.
On la voit très bien au cinéma.
Ouais.
Je veux dire, pourquoi pas.
Ouais.
Elle peut très bien jouer qui que ce soit au cinéma.
Mmh.
Elle peut faire Madame Bovary sans souci.
Alors, c'est puritain.
Virtuose, vocalement, très très difficile. Pour la soprano et pour le ténor aussi. Ténor qu'on connaît bien, Broglie, qui est un garçon plutôt habitué au répertoire de Rossini, avec beaucoup d'agilité. Donc, feu d'artifice vocal pour les puritains.
Bon, feu d'artifice que je n'ai pas encore vu, donc je me réjouis parce que je n'avais pas vu non plus la Somnambule, je n'avais pas vu Arabella, Andréa Chénier.
Grande année,
donc,
grande saison.
Grande année, non, mais tant mieux. Alors, on va écouter... votre oxygène, hein, Tristan Isolde. Vous ne pouvez pas vivre une semaine sans écouter. Alors, vous avez choisi la fin.
Hein, la mort d'Isolde.
La mort d'Isolde, chantée par Jessie Norman.
Entre autres. Ouais,
entre autres.
Oui, parce que le voix. Mm. Incroyable. Oh,
Alors, je ne vais pas dire, Roland, que c'est votre opéra préféré. Vous ne faites pas un classement des opéras, tout de même.
C'est très difficile. Alors, on pose souvent la question,
oui, oui,
comme je
l'ai
la pose
déjà posée. Oui, oui. Oui.
Et des fois, c'est celui qu'on, dont on sort de la salle. Oui. Oh, voilà, finalement. Je ne me souvenais plus que... Et des fois, c'est, bien sûr, celui qu'on attend le lendemain.
Oui, oui.
Bien sûr.
Bien sûr. Mais Tristan et Isolde a une place particulière dans votre cœur.
Oh, bah,
vous m'aviez dit que vous aimiez beaucoup Richard Strauss. Vous aimez beaucoup Richard Wagner aussi.
Ah oui, là, vraiment, depuis toujours. Même si j'ai des lacunes en allemand, je ne vais pas le cacher.
Ouais, mais vous arrivez à l'entendre en allemand
pas... Ouais, je le lis avec le livret, avec les résumés. Avec, oui, quand même.
Vous aviez préparé avant. Et puis, il y a votre autre chouchou, il y a Yannick, notre presque français.
Voilà, le Québécois, Yannick Nézet-Séguin, qui va diriger ce Tristan avec une distribution incroyable dans les deux rôles.
Je me demande quelle couleur de cheveux il va avoir cette fois-ci, Yannick.
Eh bien, on va peut-être le découvrir différemment, parce qu'il a été désigné comme le chef du concert du Nouvel An à Vienne.
Ah.
Pour le 1er janvier.
Ah, donc là, il y a Nœud papillon, smoking...
Là, je ne suis pas sûr avec lui. Je pense qu'il peut arriver avec une crête de coq. Je
veux dire,
il est prêt à tout.
Non, et pourtant, c'est très bien.
Dans ce lieu qui est quand même un truc tellement rigide, je veux dire, toute la bourgeoisie autrichienne est là. Il peut arriver avec en Marcel, avec n'importe quoi, ou maquillé comme un soleil. Bon. On ne peut pas savoir.
Et mais alors, c'est un nouveauté, très grand chef d'orchestre.
Immense. Et alors, nouveauté, c'est un peu en parallèle que j'en parle. Non seulement c'est une première pour lui dans la belle salle du Musikverein de Vienne le 1er janvier, mais c'est la première fois qu'il a imposé au programme deux petites œuvres de compositrices.
Ah,
grande
merci
nouveauté
Yannick.
À Vienne.
Merci
voilà.
Yannick.
Merci Yannick. Non, mais c'est bien de le souligner.
Oui. Bon, je me souviens plus son nom, mais j'ai vu une chef d'orchestre femme au Métropolitain.
Ça vient tout de même.
Ah oui. Ça évolue doucement.
Ça a mis du temps, mais on y est.
Ces messieurs lâchent difficilement leur privilège tout de même.
Je le confirme.
Égales. Et puis souvent, on dit que la femme, elle doit avoir deux fois plus de compétences. Oui. Allez, c'était le petit
il fallait.
Alors, une très belle distribution.
Ah bon. Lise Davidsen, qui aborde... Non, je vais faire une erreur. J'allais dire aborde enfin. Non, parce que on se dit que c'est un rôle tellement impossible qu'on ne peut pas le chanter à 18 ans, ni à 25, ni à 28, ni à 30. Mmh. Elle est encore jeune, effectivement. C'est une voix d'une puissance rare, avec un métal incroyable. Alors, elle l'aura chanté 3 mois avant au Lycée de Barcelone, mais c'est la première fois qu'elle le fait à New York, bien sûr.
Mmh.
Et dans une nouvelle production... dirigé par le Québécois Nézet Séguin, et avec comme partenaire Michael Spires, qui est quand même l'un des, c'est pas le mot très gentil de dire, avec l'un des gosiers les plus incroyables de l'actualité.
Alors je peux
Il a une étendue qui est spectaculaire.
Je peux vous raconter une anecdote, c'est que je l'ai rencontré à Nîmes avec les Volks, il y a au moins 7 ou 8 ans.
Mais bien
il
sûr.
Avait animé un atelier pour les jeunes du chemin bas d'Avignon.
Absolument, dans une école.
Dans une école.
Il avait chanté dans le préau de l'école.
Voilà, il avait le masque parce que je pense que c'est... Ah, c'était pas... Il avait le masque du Covid. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il chantait bas, il chantait très haut. Et
il a une amplitude incroyable.
Et il était d'une gentillesse, une simplicité.
C'est un pédagogue en plus fabuleux.
Ouais. Et on voit les progrès.
Mais depuis, le chemin a été incroyable.
Ouais.
Il chante partout à Bayreuth, maintenant là, Tristan au Métropolitain, c'est plus que la consécration.
Donc j'ai la grande joie de lui avoir parlé.
Ouais, c'est un garçon délicieux.
Donc une
Il faut y courir.
Il faut y courir. Bien que ça dure 5h12
avec les entractes.
Mais vous avez dit que pour vous, ça dure 10 minutes. Donc bravo.
Allez, un quart d'heure. Quand je suis de mauvaise humeur, c'est un quart d'heure.
Un quart d'heure. Alors le suivant, Eugène Onéguine,
répertoire russe.
Ne dure que 4 heures. Donc pour vous, ça fait 5 minutes.
C'est rien.
Donc là, c'est russe.
Oui, formidable.
Et
magnifique histoire.
Je vous propose peut-être qu'on écoute, parce que vous avez dit qu'il y a une basse.
Oui, un air magnifique.
Un air magnifique.
De la part du prince Grémine, presque à la fin de l'ouvrage, enfin à la deuxième partie de l'ouvrage, qui est une œuvre, qui est un air formidable, que même le grand public connaît sans savoir que ça appartient à cet ouvrage-là.
Alors là, il le connaîtra vraiment.
Oui.
Donc on écoute cette basse, le prince Grémine, qui est dans le dernier acte. Alors sur Radio Alliance Plus, Roland Massabuo va nous présenter donc les deux dernières retransmissions des opéras du Metropolitan de New York au Kinépolis. Donc là, on va parler d'Eugène Onéguine. On parlera peut-être un peu moins du dernier, puisque c'est
à découvrir intégralement.
Une production inédite. Donc,
voilà, on va en parler quand même.
On va en parler, bien sûr, je vous fais confiance. Mais parlons d'abord d'Eugène Onéguine.
Magnifique ouvrage, je suis un fan d'Eugène Onéguine. Les New Yorkais ont beaucoup de chance d'avoir une distribution qui, nous, Français, va nous plaire beaucoup. Alors, je ne peux pas m'empêcher de signaler la présence de Azmik Grigorian dans le rôle Tatiana, le rôle principal, qui est une fille que j'ai entendue en radio d'abord, à télé ensuite, en disque beaucoup, depuis une dizaine d'années, et sur scène, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, qui est une fille qui est de famille de musicien. Son papa, qui est décédé maintenant, était ténor, qui a beaucoup, beaucoup chanté en France, notamment à l'Opéra de Montpellier, notamment à Nice, notamment au Corégie d'Orange. Et donc sa fille, Azmik, qui est soprano dramatique, mais avec une telle aisance dans toutes les tessitures qu'elle peut chanter, à mon sens, quasiment tous les répertoires. Mmh. Et avec une sensibilité incroyable. J'ai le souvenir, par exemple, il y a quelques mois, à l'Opéra de Paris, lorsqu'elle a fait le triptyque de Puccini, le dernier soir, les musiciens de l'orchestre lui ont lancé des fleurs.
Ah, oui.
Incroyable.
Ils étaient eux-mêmes
subjugués. Vraiment.
Subjugués,
ah, oui. Ah non, c'est une femme qui est bouleversante. Oui. Qui chante aussi bien le répertoire russe que le répertoire italien, y compris les œuvres les plus difficiles. Ça, je suis ravi qu'elle puisse faire ça.
Et c'est là où vous dites, moi je le vois qu'au cinéma, mais qu'en vrai, ça doit être... Il y a une communion...
Elle arrive à transmettre... Elle a un pouvoir de transmission qui est assez incroyable, je trouve. Et alors, ce soir-là, enfin, le soir de ces représentations, il y a quand même un Français, Stanislas de Barbeyrac.
Je ne connais pas.
Alors ça, c'est un garçon, c'est un Bordelais,
ouais,
qui a débuté il y a une vingtaine d'années dans un rôle minuscule au Corégie d'Orange, qui fait un chemin incroyable, qui est en train de triompher depuis 10 jours à Paris dans le rôle de Sigmund de la Valkyrie, de Wagner. Et on mesure à peine le parcours de ce garçon, qui de saison en saison étonne par sa présence et par ses performances vocales et par son intelligence. On est très content qu'il joue le rôle principal.
Redites-moi son nom.
Stanislas de Barbeyrac.
Donc on imagine la quantité de travail, on le dit, on le redit, mais c'est un travail permanent.
Incroyable.
Et puis une volonté, hein, parce qu'il faut vraiment...
Il faut en vouloir.
Il faut en vouloir. Et puis, bon, je pensais quelquefois, parce que vous me disiez que parfois leurs calendriers sont pleins jusqu'en 2029, ouais, alors que les femmes, elles peuvent avoir des grossesses, elles peuvent avoir...
Donc... Ça, c'est le danger. Avoir une grossesse, ça peut malheureusement...
Ouais. Stopper une carrière.
Entraîner tout au moins l'oubli.
Oui, oui, oui. Ça va très, très vite.
Ça va très vite.
Et puis même un changement corporel, un changement mental.
Évocal.
Évocal. Et ouais.
Il y en a qui ne relève pas, ou qui mettent 2-3 ans à s'en relever. Il n'y a pas de règle là-dessus, mais c'est curieux comme phénomène. Quand même.
Oui, parce qu'on avait parlé de tout ce qui est coulisses aussi, tout ce qui est entraînement, tout ce qui est pour avoir les meilleures places, pour être repéré. Ils ont des agents, ils ont on disait que le Metropolitan est une ville dans la ville, mais l'opéra, le monde de l'opéra, c'est...
C'est un monde à part. Hein.
C'est un monde à part.
Vraiment. Alors les agents, parce que les artistes eux-mêmes ne téléphonent pas au directeur du théâtre en disant je suis libre tel jour à tel jour. Les agents ont, le mot est détestable, mais ont une écurie. Comme ça, je veux dire.
Oui, c'est horrible.
C'est horrible, horrible.
C'est horrible, mais bon, ça fait partie des traditions peut-être
dans
qui remontent après.
Ils ont 3 ténors, 4 sopranos, et à mesure... Et puis, il y a aussi un élément dont on parle peu, mais c'est le remplacement de dernière heure.
Oui, j'allais dire les doublures, enfin, parce que
doublures, c'est autre chose.
C'est
les remplacements de dernière heure.
C'est pas la même chose.
Non, c'est-à-dire que les doublures sont prévues.
Ah, d'accord.
Dans les grandes maisons, on appelle les maisons, là, c'est dans les grands théâtres, il y a le titulaire du rôle et, accessoirement, la doublure.
D'accord.
Qui, en cas de pépin de dernière heure, bien sûr, prend le rôle immédiatement. Y compris pendant la représentation, des fois.
D'accord. Oui, s'il y a...
Avec un accident, on fout de la cheville ou quoi que ce soit. Puis ensuite, il y a les théâtres qui n'ont pas les moyens d'avoir la doublure, qui est quand même payée aussi.
Ouais.
Et donc, au dernier moment, 2 heures avant, on dit, est-ce que tu peux prendre un avion pour venir chanter ça? Essayer un costume qui peut-être ne va pas. Alors, il y a une couturière qui entre en jeu. Ah, mais non, c'est...
Ah, oui, oui. Et on dit oui. Dans ces cas-là, on ne peut pas laisser passer.
Si le métropolitain vous appelle à 4h du matin, même si vous avez fait la fête la veille, vous dites « j'y vais ».
Oui, ça fait un stress épouvantable. On dit « est-ce que je serai capable ? Est-ce que je serai ?»
La pression, c'est énorme.
Mais dans La Sonnambula, il y avait c'était son premier rôle, là, le ténor espagnol.
Un
et on sentait au début que c'était un peu crispé. Hein.
Mais imaginez, à 29 ans, quand vous arrivez sur la scène du métropolitain, c'est pas rien.
Ouais,
4000
ouais.
personnes devant. Là,
Oui, alors si vous avez
et la télévision. Non, vous imaginez, dans 150 pays, enfin, c'est hallucinant.
Non, mais il y a aussi, on le sent très nettement, enfin, moi maintenant avec un peu d'habitude, qu'au début on sent qu'il se chauffe.
Ben oui. Il y en a qui se chauffent en coulisses déjà.
Oui, d'accord.
Bien sûr.
Mais malgré tout, après, il y a l'air. Donc c'est vraiment un monde à part. Donc Eugène Onéguine, c'est un autre pays. Moi, ce que j'aime aussi dans l'opéra, c'est qu'on voyage.
Hein,
on
va
à Vienne, à Paris, à Moscou, en Amérique latine.
Bien sûr.
Et donc, on a notre transition rêvée pour le dernier rêve de Frida et Diego, Frida Kahlo. Donc, on retrouve notre cher Yannick Nézet-Séguin.
Mais il aime ça. C'est un moderne, il aime les créations.
Il aime les créations.
C'est un garçon qui est d'aujourd'hui.
Qui est avide, mais dans le bon sens.
Ah, il croque tout.
Et c'est de... La musique est de Gabriela Léna Franck.
Ah, oui. Bon. Et c'est son premier opéra. Qui a été créé il y a 2-3 ans, 2-3 automnes. Mmh. Et ce qui n'est pas tout à fait courant, c'est qu'il est, heureusement d'ailleurs, en langue espagnole.
Mmh. Oui, ce n'est pas si fréquent.
Ben non, parce qu'il y a peu d'opéras en langue espagnole. Et là, en plus, c'est une création. Et donc, ça retrace alors, la vie, la passion, les amours... tumultueuse,
oui, on peut dire
la carrière aussi, de deux monuments de la culture
d'Amérique latine,
qui a 30... Diego Rivera était quand même un peu connu.
Oui, parce qu'il a fait les grandes fresques monumentales, murales.
Formidable.
C'était un porte-parole vraiment de la Révolution
Frida
mexicaine.
Frida était davantage dans l'ombre.
Moi, je dirais qu'il y a une vingtaine d'années que Frida Kahlo est partout.
C'est ça.
Mais avant, bon, c'était un peu confidentiel.
Maintenant, son nom devient...
J'allais dire une marque publicitaire, mais c'est vrai.
C'est un peu ça.
Il y a des sacs à main, il y a des...
Oui, c'est vrai.
Et moi, ça m'a toujours choqué parce que son corset, ce fameux corset, est presque mis en avant alors que c'est une souffrance permanente.
Ben
il
ne
faut peut-être pas la réduire qu'à cela. Hein. Rappelez qu'elle a eu un très grave accident d'autobus.
Tout à fait.
Et qu'elle a été vraiment
brisée.
Hein.
Ben, c'est un couple
et lui, Diego, énorme, obèse.
C'est un couple étrange, quand même.
C'est un couple étrange, oui.
Mais
il faut lire la vie de Frida Kahlo.
C'est passionnant.
C'est passionnant. Ah, et puis aller à Mexico voir sa Maison Bleue.
Bien sûr, oui. Ah oui, oui. Mais non, c'est... Je trouve ça passionnant aussi, vous voyez, de pouvoir écrire un opéra sur ces deux phénomènes.
Ouais.
Là, on est vraiment dans la vraie culture d'aujourd'hui, je trouve.
Ouais. Et en disant, en avertissant le mythe d'Orphée et Eurydice.
Ouais. C'est fou, ça.
Oui.
Ah non, moi, ça
qui mène à la perte l'autre, c'est vraiment intéressant. Et vous êtes très impatient de voir cela. Hein.
Ah oui, et je suis impatient surtout de voir comment va incarner Frida Kahlo Isabelle Léonard,
ouais.
Qui est une jeune, encore, oui, vous voyez, en tout cas très, très...
Très jolie.
Très ah oui, je trouve très, très charmante.
Ouais.
Soprano, mezzo même, américaine. Et oui, le travail qu'elle va faire là-dessus, moi je suis admiratif.
Ouais. Alors ça s'appelle Le dernier rêve de Frida oui. et Diego, parce qu'on sait que la fête des morts, le jour des morts au Mexique, a une importance considérable, que la tête de mort,
ah, oui.
le squelette, la couleur, on mange dans les cimetières, on fait la fête, etc.
C'est la feria.
C'est la feria. J'aurais pas pensé. Donc le dernier rêve, qu'est-ce que c'est que ce dernier
mystère,
rêve
hein.
Mystère.
On le saura au dernier acte,
parce
peut-être.
Parce qu'ils s'aimaient, mais en même temps, ils se détruisaient.
Alors moi, pour l'instant, j'aurais pu faire, sachant que vous allez m'accueillir, j'aurais pu faire des recherches, mais je n'ai pas voulu savoir quel était ce dernier rêve.
D'accord.
J'ai
mais
pas
non,
allé
je pense qu'il faut garder tout même.
Mais oui, bah oui, heureusement.
Bon, puis la mise en scène, je pense que là aussi, la mise en scène
bah
va
oui,
avoir
alors,
une importance.
Ils vont nous montrer...
C'est une femme, hein, Déborah Kolker.
Oui, qui est une femme qui a beaucoup travaillé dans les comédies musicales.
Mm-hmm.
Aux États-Unis, à Broadway notamment.
Vous savez que j'ai toujours un peu peur du kitsch, moi, d'un peu.
Ah, pas
trop. Trop, c'est
pas
trop.
Oui, oui.
Trop, c'est
ah non,
trop.
Ça ne veut pas dire ça.
Ça ne veut pas dire ça.
Pas toujours.
Bon.
on est à New York aussi, on est à Broadway. Il, veut dire. Il, faut,
oui.
quand même, il faut quand même en jeter aussi.
Mais écoutez, on est très impatients et pourtant, il faudra attendre le 30 mai. Hein.
Ah ouais.
Ça ne dure que 2h48 au Kinépolis. Donc. Ben j'ai hâte, moi, de voir
moi
tout
aussi.
Cela.
Franchement, parce que, là, oui.
Et tous les ans, ils nous font des belles surprises.
Oui.
Et c'est vrai, moi, j'ai gardé tous les catalogues depuis une quinzaine d'années.
Ouais. Et je trouve que c'est tout à l'honneur du Metropolitan, qui a quand même une grande réputation, de
ouais,
proposer
de prendre des risques.
Une, voire deux créations contemporaines.
Ouais.
Ce qui permet aux abonnés, même s'ils ne seraient pas allés de eux-mêmes, de prendre la place et de découvrir.
Enfin, eh bien, écoutez, belle découverte à vous, à moi, à tous.
Et
merci encore
merci de l'accueil.
De nous donner vos lumières.
Ah,
merci.
Merci à tous.